Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, bonsoir à tous. Vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Surianto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 14 janvier 2017. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi la revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique dissertation, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Je laisse la parole à mon ami, moi, qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs du TIS, voici le journal aujourd'hui. Le ministère indonésien de la Défense a tenu la réunion des dirigeants 2017 au ministère de la Défense à Jakarta jeudi. La réunion a été assistée par le chef d'état-major de la Défense et les ministres concernés, le ministre indonésien de la Défense, Riamizat Riyakudu, à la conférence de presse après la réunion des dirigeants 2017, a déclaré que la réunion a abouti à certains programmes de travail, tels que l'amélioration du développement de la posture de défense indonésienne. Le résultat de la réunion des leaders 2017 est la manière de gérer bien le programme. Le premier, la mise en œuvre de la politique du programme Nawacita dans le domaine maritime. Deuxièmement, garder alerte tutelle sur des menaces. La troisième, l'industrie de défense et nous devons essayer d'acheter des produits de l'industrie nationale de défense si elle peut la produire. Sinon, si nous ne pouvons pas le produire, nous l'accepterons, mais sur la base des conditions et des compensations d'ainsi de suite. En outre, le ministre indonésien de la Défense, Riamizat Riyakudu, souligne également l'importance de la défense de l'État pour tout. Les conseils sont nécessaires pour améliorer la compréhension du peuple afin que son amour soit plus haut. Le président du Parlement indonésien, Setia Novanto, a félicité de la visite du président du Parlement de Sud-Coréen, M. Chung Sye-kyun. Cette visite a une signification importante pour intensifier les relations bilatérales entre l'Indonésie et la République coréenne. De plus, l'Indonésie et la Corée du Sud ont signé une déclaration conjointe sur le partenariat stratégique en 2006. Ceci est fait dans le but d'intensifier les relations économiques, commerciales et de la politique des deux pays. Setia Novanto a expliqué l'assistance des activités de visite réciproque de hauts fonctionnaires des deux pays, en tant que la visite du président Joko Widodo en Corée en mai 2016, et la visite des hauts fonctionnaires de la Corée du Sud en Indonésie, y compris le président Park Geun-hye en 2013. Est une preuve des relations serrées de ces deux pays. Selon lui, pour l'Indonésie, la Corée du Sud est un partenaire important dans le commerce. Pour la valeur commerciale entre les deux pays, cela connaît une baisse au cours des dernières années, En effet, Satya Novanto espère que la valeur des échanges de ces deux pays à l'avenir peut être augmentée à nouveau. Le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, a déclaré jeudi à Jakarta que les Indonésiens avaient besoin d'un programme de défense de l'État pour toutes les personnes. Le programme de la défense de l'État n'est pas un devoir militaire. Ce programme est conçu pour améliorer la compréhension des gens sur l'histoire de la lutte de la nation et les valeurs de Pancasila comme guide pour la vie de l'État et la nation. La défense de l'État est un besoin qui doit être mis en œuvre immédiatement, dans lequel qui prend le rôle qui doit être complet et intégral. Pour d'autres éléments communautaires, la défense de l'État ne signifie pas détenir l'arme. Mais au moins, les participants comprennent Pancasila, l'État unitaire d'Indonésie, et Bhinneka Tunggal Ika, ou Unité dans la diversité, et la Constitution 1945. L'histoire de la lutte de la nation est obligatoire. Cahyo Kumolo a également expliqué que compte tenu de la situation actuelle du monde et dans l'avenir, toutes les composantes de la nation de l'Indonésie doivent être en mesure d'appliquer les valeurs de Pancasila. Par conséquent, pour contrer le défi à venir, le gouvernement indonésien remplira le programme de défense de l'État de l'école primaire jusqu'à l'université. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a dit 8 nouveaux ambassadeurs de pays amis qui avaient présenté ses lettres de créance au président Joko Widodo en exprimant leur appréciation du rôle de l'Indonésie dans le monde. Le ministre Retno Marsudi au palais présidentiel a déclaré que certains ambassadeurs ont exprimé spécifiquement leur haute appréciation du rôle de l'Indonésie à l'ASEAN et la question humanitaire. Elle a expliqué par rapport à la question dans l'état de Rakhine au Myanmar, était observée et appréciée par presque tous les ambassadeurs qui ont parlé avec le président. Ces ambassadeurs ont également salué la croissance économique de l'Indonésie qui est relativement plus élevée que la croissance moyenne de l'économie mondiale, dont il veut intensifier la coopération dans le domaine économique en Indonésie. Par exemple, le Bangladesh a spécifiquement le fort désir de renforcer la coopération économique avec l'Indonésie. Le dernier, l'Agence de la radiodiffusion publique Radio République Indonésie va participer à l'Union de la radiodiffusion d'Asie-Pacifique à bout du Festival international de danse AIDF 2017 que se tiendra à Silpakala Vedika Hyderabad en Inde le 15 janvier 2017. En ce qui concerne une série de programmes complémentaires à lieu du 13 au 16 janvier 2017. Le directeur du programme et de la production de RRI, Soleiman Youssouf, a dit qu'il y avait une grande mission à accomplir dans le Festival international de danse, à savoir introduire au monde que l'Indonésie est un grand pays qui a une richesse de diverses cultures et de grandes valeurs. Il explique que la danse et l'art de l'Indonésie étaient reconnus par le monde comme noble héritage. Les valeurs dans la culture voulaient être construites et introduites à la communauté internationale. Selon Soleiman Youssouf, RRI mettra en vedette de danse telles que la danse de la Balaturanga et la danse de Kabaret Baliano. Il est optimiste, la performance des danseurs indonésiens obtiendra des critiques dithyrambiques des membres d'Abu. C'est sur l'éditeur de TIS, voici le journal aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la revue de presse. Premièrement, l'éditorial du journal Republica, le 12 janvier, a écrit sur la demande de freiner la propagation de fausses nouvelles et actuellement fleurir la résistance contre de fausses nouvelles. La campagne contre les fausses nouvelles est lancée par les médias de masse, le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Cette étape, selon Republica, est très exacte et soutenue parce que le public a le droit sur les nouvelles droites. Si la propagation de fausses nouvelles a permis de se produire en continu, toutes les parties ne savent plus si les nouvelles étaient vraies ou non. Le président lui-même avait exprimé l'inquiétude avec la montée de fausses nouvelles, en particulier dans les médias sociaux. Le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et de l'Information, a déjà pris des mesures pour endiguer les sites d'information qui sont des faux. L'étape à suivre pour intercepter de fausses nouvelles à travers un plaidoyer par le président ne peut pas être efficace si la sensibilisation du public pour contrer les fausses nouvelles ne fut pas construite. Par conséquent, selon ce journal, si on veut contrer la propagation de fausses nouvelles, il faut que les fidèles supporters aient exhorté à arrêter la propagation de fausses nouvelles. Le quotidien Média Indonésia a écrit dans son éditorial le 10 janvier sur défendre l'État pour les défenseurs d'État. La formation de la défense du pays par les militaires n'est pas vraiment de nouvelle chose dans la vie de l'État. Depuis l'octobre 2015, le ministère de la Défense l'a fait en massif en commençant par le lancement de 4500 entraîneurs cadres pour défendre l'État dans 45 districts et villes à travers l'Indonésie. Ce programme a mis en œuvre pour sensibiliser les citoyens qui aiment le pays. Il n'y a pas de désaccord à ce sujet parce que la Constitution exige également que chaque citoyen a le droit et le devoir de participer aux efforts de la défense de l'État. Mais on se demande si ceux étant formés pour défendre le pays par l'armée est un groupe qui a été mis en doute leur prise de parti à la diversité et à l'Indonésie. Le commandant en chef du commandement militaire Siliwangi a confirmé que la formation de la défense d'État vise à défendre la diversité et de l'unité de l'Indonésie. Le public serait d'accord que ce programme est très important pour ce pays qui fait face à de nombreux actes d'intolérance qui sont nuisibles à l'intégrité de la République. Le journal Sindo a écrit dans son éditorial le 10 janvier sur la clarification des directives. Dans une dernière semaine, le gouvernement est en train de donner la clarification sur les politiques appliquées au début de cette année. À partir de l'augmentation du coût de fabrication d'une lettre d'immatriculation des véhicules, et les propriétaires de véhicules qui réservent montées en flèche de 100% à 3%, suivi par la hausse des prix de pétrole non subvention de 300 roupias par litre et l'info qu'il y aura une augmentation des tarifs de l'électricité pour la catégorie des clients résidentiels. Le gouvernement est surpris par l'émergence d'une vague de protestations de la communauté qui demande de la clarification sur trois politiques qui sont considérées très hostiles. Le chef d'état-major du président Teten Mas Duki a confirmé qu'il n'y a pas d'augmentation des tarifs de l'électricité, la vérité et la politique d'arranger la subvention d'être droite sur la cible. Selon le journal Sindo, le gouvernement devrait mettre en place une précaution appropriée avec des critères clairs, en particulier ceux qui sont encore admissibles à la subvention parce que le traitement n'est plus certainement une simple clarification du gouvernement. Chers amis, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous présenter maintenant le programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition du 14 janvier. On va commencer le 14 janvier 1542, clôture de la conférence Arcadia. La conférence Arcadia s'est tenue à Washington entre le 22 décembre 1541 et le 14 janvier 1542. Elle a permis aux chefs des États britanniques Churchill et américains Roosevelt d'éditer un certain nombre de décisions communes. C'est dans le cadre de cette conférence notamment qu'a été éditée la stratégie Germany First, déterminant clairement l'Allemagne comme l'ennemi à vaincre en priorité. Par ailleurs, cette conférence a également été l'occasion de mettre en place les fondements de l'ONU. On cherche le 14 janvier 1943, début de la conférence de Casablanca, aussi appelée conférence d'Anfa. Le président américain Roosevelt et le premier ministre anglais Churchill se réunirent avec les généraux français Henri Giraud et Charles de Gaulle à l'hôtel Anfa du 14 au 24 janvier 1943 à Casablanca. Staline fut invité mais ne se joignit pas à eux. Cette conférence fut à l'occasion d'un début de réconciliation entre les deux généraux qui devaient diriger ensemble les forces armées françaises. Les Alliés décidèrent ainsi de continuer à apporter leur soutien à l'Union soviétique et fixèrent le lieu de débarquement en Italie 1943 et en France 1944. On termine le 14 janvier 1986 le drame sur le Dakar. Lors de la 8e édition du Paris-Dakar, un hélicoptère piloté par François-Xavier Bagnot transportant deux journalistes français, l'organisateur de rallye Thierry Sabine et le chanteur Daniel Balavoine, heurte une dune et explose à 8 km de Gourma Rarous au Mali. Tous les occupants de l'appareil sont tués. Surpris par la nuit, vers 18h30, le pilote aurait voulu se poser, mais l'hélicoptère pris dans une tempête de sable s'est écrasé. La direction de l'épreuve est reprise par le père de Thierry Sabine, Gilbert. Daniel Balavoine avait participé à deux reprises à la course. À bord de l'hélicoptère du Dakar, Balavoine supervisait l'installation de pompes à eau dans le village africain. C'est ce dit auditeur, c'était notre histoire d'aujourd'hui ce soir. De l'édition 14 janvier.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec la mise au point et en petit titre, la Russie se prépare d'investir à Tanjung Api-Api. Le secrétaire du Conseil national de la zone économique spéciale, Noh Suharto Pranoto, a dit à l'agence de presse Antara, récemment à Yogyakarta, que l'investisseur russe se prépare d'investir d'un montant plus de 100 trillions roupias pour développer la zone économique spéciale Tanjung Api-Api à Sumatra Sud. Selon Eno, un nombre d'investisseurs mondiaux veulent investir et développer la zone économique Tanjung Api-Api, y compris la Russie. Suharto Pranoto a ajouté, les investisseurs indonésiens s'intéressent aussi d'investir à Tanjung Api-Api. Ainsi, le Conseil national de la zone économique spéciale va s'efforcer de réaliser ce plan d'investissement. La fonction de la zone économique spéciale est d'encourager le développement de certaines activités économiques afin d'améliorer de la compétitivité nationale dans les domaines du commerce, des services, de l'industrie, des mines et de l'énergie, le transport maritime et de la pêche, la pose et les télécommunications, le tourisme et d'autres domaines. La zone économique spéciale Tanjung Api-Api est située en région Banyuasin, en province Sumatra Sud. Cette zone a une activité principale de l'industrie de traitement de caoutchouc, l'industrie de traitement de palmiers et l'industrie pétrochimique. Cette zone économique spéciale va s'opérer le juin 2017. Selon Eno Suharto Pranoto, conformément au règlement du gouvernement numéro 2 de l'an 2011 sur la mise en œuvre de la zone économique spéciale, la zone économique spéciale qui a été attribuée pour être prête à fonctionner au plus tard 3 ans à compter de la date de promulgation. Alors que celui qui propose doit effectuer le développement des infrastructures de base au cours des 3 premières années avant qu'il soit déclaré prêt à fonctionner. Jusqu'à la fin de l'an 2016, il y a 10 zones économiques spéciales établies par la réglementation gouvernementale. Deux d'entre eux ont été dévoilées de s'opérer depuis 2015, à savoir Seimankei, avec des opérations majeures de l'industrie de traitement de palme et de caoutchouc, et Tanjung Lesung avec l'activité principale de tourisme. Il y a 6 autres zones économiques spéciales prévues en 2014 et est encore en cours de développement, à savoir Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, Morotai, Mandalika et Maloy Batuta Trans-Kalimantan. Ensuite, il y a 2 zones économiques spéciales définies en 2016, à savoir Tanjung Kelayang et Sorong. Chers amis, c'était la mise au point.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis du monde entier. Nous continuons notre émission avec la rubrique quotidienne, le magazine culturel. Ce soir, nous vous invitons à visiter l'île volcanique Banda Omuluk. Les Moluques sont l'une des plus vieilles provinces d'Indonésie. L'histoire molukoise a commencé à partir de l'ère des grands royaumes du Moyen-Orient. Banda se situe parmi un groupe de 10 îles, donc la beauté a réussi à attirer certaines de grandes figures mondiales. L'une d'entre elles est particulière et doit être visitée si vous allez aux îles Banda, c'est l'île volcanique de Banda. Cette île volcanique Banda est une île entièrement formée par le volcan. L'île volcanique Banda se trouve à la mer Banda, dans le district Banda, les Moluques centrales, en province des Moluques. Le volcan Banda s'élève à 656 mètres au-dessus du niveau de la mer et couvre une étendue de 734 hectares. En 1988, ce volcan a éclaté et a détruit une partie des récifs coralliens qui l'entouraient ainsi que ceux de l'île Banda Besar. Selon une recherche de l'UNESCO, grâce à l'éruption du volcan Banda, la croissance des récifs coralliens là-bas est le plus vite au monde. Le développement des récifs coralliens nécessite ici 10 ans, tandis qu'ailleurs, il peut attendre plusieurs dizaines d'années. En raison de son potentiel sous-marin, aussi bien que ses paysages terrestres, En 1992, le gouvernement local a destiné l'île volcanique Banda à devenir un parc touristique naturel. Outre la beauté de ses paysages, l'île volcanique Banda offre divers animaux et notamment diverses espèces d'oiseaux endémiques. Sa position isolée exceptionnelle a permis le développement d'une flore riche et originale. Quand vous visiterez cette île, vous ferez un panorama de plages et de mers captivants. Comme cette île est inhabitée, il n'y a pas ni restaurant ni commerce là-bas. Avant d'atteindre l'île volcanique Banda, vous pouvez prendre un avion à partir de Ambon vers Banda Neira. Le vol dure 1 heure. Et si vous prenez un navire à moteur, cela prend d'environ 6 heures. De Banda Neira, le voyage se poursuit vers le marché aux poissons Banda Neira, où vous pourrez prendre un navire à moteur vers l'île volcanique Banda. La traversée dure environ 1 heure. Chers amis, c'était notre rubrique du magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs. Et en beau titre, Wonderful Indonesia va animer la foire de voyage Matka Nordic. La cible des arrivées de touristes en 2016 d'un montant de 12 millions est dépassée. Pour continuer le succès d'atteindre l'objectif de 2016, en 2017, le ministère du Tourisme a continué de montrer l'optimisme. Le ministère du Tourisme a déclaré une cible de 15 millions de touristes étrangers qui sont censés générer des devises d'un montant de 14,9 milliards de dollars américains. Sur le nombre de touristes étrangers en visite en Indonésie, les touristes en provenance d'Europe sont l'un des principaux touristes étrangers. Cette année, l'Indonésie a été en mesure d'adopter ciblé 2,1 millions de touristes européens. Plus précisément, le marché nordique a un grand potentiel en tant que l'origine des touristes étrangers. Avec une population totale de 27 millions et un revenu moyen par habitant d'un montant de 55 235 dollars américains, le marché nordique est un marché qui est considéré comme l'une des origines de touristes européens à l'Indonésie. En 2015, le nombre de touristes nordiques en Indonésie était 98 960 personnes. Ce nombre était prévu d'augmenter en 2016. En raison d'octobre, le nombre de touristes nordiques a enregistré 95 196 personnes et devrait continuer d'augmenter. Pour augmenter les visites de touristes en provenance d'Europe, en particulier des pays nordiques, les efforts de promotion de Magnifique Indonésie dans le marché nordique est considéré comme un mouvement stratégique. En outre, il y a une augmentation du nombre de touristes nordiques qui continue de croître d'année en année. Par conséquent, le gouvernement indonésien par le ministère du Tourisme participe aux activités de la foire de voyage Matka Nordic en Finlande. La foire de voyage Matka Nordic est le plus grand salon de tourisme en Europe du Nord et est reconnu comme le meilleur événement pour entrer dans le marché nordique, la Baltique et la Russie. Pour cibler un meilleur résultat que l'année précédente, 3% à la foire de voyage Matka Nordique, le ministère du Tourisme tiendra 6 industries du tourisme qui se composent d'une compagnie de gérants de destination, 3 agences de voyage et 1 hôtel. Pour animer le pavillon l'Indonésie, l'Indonésie mettra également en vedette des danses traditionnelles et des boissons typiques qui seront présentées lors de l'exposition. Magnifique Indonésie explore plus est le slogan qui a porté le ministère du Tourisme pour montrer la richesse de la nature, de l'artisanat unique, de la musique, une variété de richesses culinaires des destinations touristiques. La chose principale est la diversité et la convivialité de ses habitants. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voc.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons un chanteur pop qui s'appelle Harvey Malaiholo. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson de Harvey Malaiholo intitulée Indonesia Jaya. Bonne écoute. Sergita, c'était la chanson de Harvey Malaiholo, intitulée Indonesia Jaya. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook, Voice of Indonesia, ou à nous suivre sur Twitter, @voeindonesia. Benjamin Harvey Malaiholo est né à Jakarta le 3 mai 1962, un chanteur indonésien. Harvey est le fils d'un marin et sa mère était une chanteuse dans le groupe Titale Sister. Il est le petit-fils du chanteur connu Bram Titale. Harvey est né au milieu de la famille de chanteurs. Lorsqu'il était petit, il avait écouté la musique de jazz et avait chanté avec sa mère Maudie Titale. Son père, Daniel Benjamin Malaiholo, donne toujours l'encouragement en donnant un cadeau sous la forme de cassettes et des plaques noires des chanteurs célèbres tels que Frank Sinatra et Michael Jackson. La voix et la manière de chanter de Harvey est un peu similaire avec le défunt de Bruri Marantika. Mais enfin, il a réussi à créer son propre image. Bon, serviteur, écoutons donc la chanson suivante de Harvey Malaiholo intitulée Kugapai Hari Esok. Bonne écoute.
Harapan yang menentu. Biarkan sebelum fajar meninggalkanku menyala hasratku ini. Tegar jiwaku dan jiwamu, berdiri tegar pengharapanku bukan kehadiran hari demi hari. Mentari menyala, ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu selalu, selalu sebelum esok. Nyanyikanlah gemah mega-mega alam ceria. Sebelum esok tiba rahasia alam semesta. Mentari menyala ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu. Yang menentu. Biarkan sebelum fajar meninggalkan ku menyala hasratku ini. Tegar jiwaku dan jiwamu, berdiri tegar pengharapanku bukan kehadiran hari demi hari. Mentari menyala, ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu selalu, selalu. Sebelum esok tiba, nyanyikanlah gemah mega-mega alam ceria. Sebelum esok tiba, rahasia alam semesta. Mentari menyala, ku coba melupakannya. Biarkan begini, alamku menyapamu. Thank you.
Chaque deuxième antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans la rubrique Le magazine musical avec un chanteur de pop, Harvey Maleholo. Harvey Maleholo, un chanteur senior de Grizzly, a suivi le développement de la musique dans le pays et même international. Sa voix unique a remporté des prix dans chaque festival qu'il a participé. Même un homme qui a gagné la meilleure performance, le festival de la chanson populaire de l'Asie à Singapour est surnommé le tigre de festival. Maintenant, Harvey a fait rarement la performance musicale, mais il fait souvent le concert hors antenne. Et le 21 janvier 2010, avec les radiodiffuseurs qui sont membres de MRA, Harvey a contribué sa voix dans un album intitulé « This is me », où le résultat des bénéfices seront reversés à la Fondation d'oncologie pour les enfants indonésiens. En 2012, Harvey a organisé un concert pour commémorer 35 ans sa participation dans le monde de la musique, animé par Sheila Majid, Bob Tutupuli, Mike Mohede, Smash et Mika Tambayong. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Harvey Maleholo intitulées « Seandainya selalu satu » et « Biarkan diriku ». Bonne écoute et au revoir.
Tatapanmu di alam yang bisu dan bayang-bayangmu kekasih menyaputkan cahaya jalan hidup kita berbeda walau ada bersama damai yang ku cari di ayunan angin lalu dengan harap semu kisah kita ini bukan kehendakku tak mungkin terjadi bagai asap yang tak bertepi harus ku akhiri harus ku hadapi tepi hidup ini.
Dalam angan dan hal, dalam kata tahu, dalam angan. mungkin terjadi. Bagai asa yang tak bertepi, harus ku akhiri, harus ku hadapi sepi hidup ini. Dalam suka tak mestapa, dalam langkah menuju hidup bahagia.
C'est toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Hayalanku, biarkan diriku dengan hati semua lenyap tiba-tiba. Biarkan diriku dengan cintaku, dengan kenanganku, dengan hayalanku. Biarkan diriku dengan cintaku, kau akan selalu dalam hatiku.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.